Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité Smith est Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la Province Sud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter votre invitation. Alors, on savait que la Calédonie ne pourrait pas rester éternellement Covid-free. On sait depuis le 6 septembre que le virus est entré. On recense aujourd'hui 62 décès au total, dont 5 au cours des dernières 24 heures. 56 patients en réanimation, plus de 55 800 cas recensés. Est-ce que vous attendiez franchement à une telle violence de l'épidémie ?
Non, cette crise elle est extrêmement violente. Alors elle est d'autant plus violente qu'on a vécu Covid-free avant. Donc c'est vrai que les Calédoniens ont vécu sans gestes barrières, sans protection. Et donc le virus a été découvert malheureusement tard, avec un taux de contamination qui est gigantesque. En fait, c'est pas une vague qu'on prend comme les autres territoires, c'est un tsunami. Cette épidémie nous attaque de manière extrêmement agressive. Il y a eu énormément de contaminations avant qu'on s'en rende compte, et donc c'est ce qui est payé aujourd'hui.
Alors vous êtes rendu au Médipôle notamment, vous y étiez hier. Quelle est votre réaction, quel est votre sentiment quand on voit ces gens, quand on voit ces malades, quand on voit toute cette infrastructure autour de cette maladie ?
C'est extrêmement émouvant, touchant, parce que on voit des gens d'abord dans une détresse énorme, hein, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est des gens qui nous ressemblent, c'est des Calédoniens qui sont, la moyenne d'âge en réa c'est 54 ans, c'est pas très vieux, le plus jeune a 23 ans, en hospitalisation c'est 15% des hospitalisations qui ont moins de 30 ans, enfin c'est tout le monde qui est touché en fait. On a croisé des familles qui viennent avec des gens qui sont en train de passer leurs dernières minutes, leurs dernières heures. C'est très très touchant, vraiment. Et de voir, hein, en réanimation, c'était 100% des gens qui étaient en réanimation qui étaient pas vaccinés, qui avaient pas eu leur 2 doses de vaccin. C'est dramatique de se dire qu'on aurait pu éviter ça. On a tout fait pour passer des messages. On a quelques charlatans qui ont malheureusement été très forts sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que c'est une épidémie qui touche les non-vaccinés et qu'on aurait pu l'éviter. On aurait pu éviter de prendre la vague aussi fort que ça. Mais c'est vrai que c'est très émouvant, c'est très touchant parce que les familles sont directement touchées. Ouais.
La vaccination, c'est évidemment l'un des grands sujets. On a noté d'abord une ruée sur les vaccinodromes après l'entrée du virus et puis un ralentissement. On en est où ? Est-ce qu'on a bien identifié d'où venaient les réticences et est-ce qu'on sait y répondre ?
Alors oui, on voit bien certaines parties de la population qui sont réticentes. Je ne parle pas de... Excusez-moi, mais du terme, mais des anti-vax purs et durs qui de toute façon ne feront rien. Je parle de la population comme vous et moi qui écoute, qui entend beaucoup de choses et qui finalement sait plus à quel saint se vouer. C'est qu'il sait plus. Il y a un médecin qui dit ça, il y en a un autre qui dit ça. Moi, je crois que simplement, moi, je suis très attachée aux faits, à la réalité. Je suis une scientifique. 96% des médecins vaccinés dans les médecins libéraux, 99,5% des médecins vaccinés au Médipôle. Enfin, c'est moi, je crois dans les médecins. On a entendu le docteur Papilio qui a appelé tout le monde à la vaccination parce que effectivement, j'ai vu beaucoup de Calédoniens cette semaine qui se posent des questions. Ils entendent des choses. Aujourd'hui, en Calédonie, personne n'est mort du vaccin. Personne n'est mort du vaccin. Par contre, on a eu 62 morts du virus. C'est ça la réalité. Et on n'est pas en train d'inventer des choses, on n'est pas en train de cacher des choses. Quel serait notre intérêt ? Quel serait notre intérêt ? Donc là, aujourd'hui, nos vaccinodromes fonctionnent plutôt bien. On a un peu plus de monde sur les différents lieux de vaccination. Tant mieux. J'espère qu'il y a une prise de conscience. Le fait que finalement, tous ceux qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. J'espère que c'est simplement, de manière factuelle, une manière de réagir. Mais ça reprend et j'espère que ça va continuer. Parce que c'est simple, hein, on a tout un tas d'experts. Vous savez, on a le directeur de l'Institut Pasteur, on a des gens de l'IRD qui regardent comment cette épidémie va réagir. Et c'est assez simple, hein. Plus les gens se font vacciner, moins on aura de morts. Tout simplement. C'est mathématique, l'impact est direct.
Et alors, est-ce que la politique vaccinale est adaptée à la situation ? On a vu des grands centres, des vaccinodromes à la mairie de Nouméa, au Coïcara, avec effectivement énormément de gens qui sont venus se vacciner. On constate que ça s'est un peu ralenti ces derniers jours. Et puis, il y a certaines communes qui se plaignent de ne pas être servies en vaccinodrome, de devoir se déplacer. Enfin, leur population doit se déplacer ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour adapter aux besoins ? Et est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on peut en mettre dans toutes les communes, dans tous les quartiers ?
On essaie d'être agile. Alors, ce n'est pas toujours simple parce que, en fait, il y a besoin des gros vaccinodromes et il y en avait besoin quand on les a mis en place et on maintiendra Coekara, parce que c'est là que les gens viennent, ça passe vite, il y a énormément de lignes de vaccination, les gens qui ils savent que ce vaccinodrome existe, donc celui-là va être maintenu, évidemment, pendant toute la durée de la crise. Mais en parallèle, il faut qu'on soit agile et qu'on aille là où les gens en ont besoin et là où ils peuvent pas se déplacer. On l'a fait au Mont d'Or, on a été à la briqueterie la semaine dernière, ou cette semaine, en début de semaine. On va aller la semaine prochaine dans la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, parce qu'il y avait besoin. En fait, on a des demandes des maires et on essaye d'y répondre.
C'est la province qui
le
répond.
Plus rapidement possible. Alors, normalement, c'est le gouvernement qui doit s'occuper de la vaccination, mais on fait les choses de manière solidaire. Chaque province, chaque collectivité, en fait, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. La province met en place un certain nombre de centres de vaccination, effectivement, comme les autres provinces le font. On essaye d'être très, très actifs là-dessus. Ouais.
Et l'obligation vaccinale pour tous doit entrer en vigueur le 31 décembre, 31 octobre pour un certain nombre de professions. On parle d'avancer cette obligation vaccinale au 31 octobre, c'est une bonne idée, il faut le faire.
Vous savez, j'entends beaucoup de gens me dire on n'est pas contre la vaccination, mais on est contre le fait d'être obligé. Alors, c'est toujours difficile à entendre. En fait, quand on a laissé 6 mois dans lesquels il n'y avait pas d'obligation, et en fait, on s'est rendu compte que les gens n'allaient pas se faire vacciner. Et quand on sait que le taux de vaccination est directement lié au nombre de morts, quand on est un responsable politique, eh bien, on décide de faire que les gens se fassent vacciner. C'est ça, la réalité. Donc, si on a essayé de le faire en encourageant les gens, ça ne fonctionne pas. Donc oui, il faut qu'on ait une obligation vaccinale parce que si les gens vont pas se faire vacciner, eh bien on aura un nombre de morts qui sera ingérable. Et aujourd'hui, on est en train de dépasser nos capacités de tout ce qu'on a imaginé au Medipol. Si on veut ralentir ça, il faut que les gens aillent se faire vacciner. Donc oui, effectivement, il faudra sans doute rapprocher un peu la date d'obligation vaccinale. Il faut mettre en place des mesures. En fait, moi, ce que je préconise au sein de la direction des opérations, c'est un certain nombre de mesures qui fassent en fait une différence entre les gens vaccinés et les gens non vaccinés dans le quotidien.
C'est-à-dire la création d'un pass vaccinal, en fait.
La création d'une forme de pass sanitaire. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, quand on n'est pas vacciné, on peut continuer à vivre, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que, comme on est plus contaminant, comme on fait prendre plus de risques à la population, eh bien, on n'a pas accès aux mêmes choses. Et quand on est vacciné, eh bien, on peut vivre normalement. Et effectivement, il y a les gestes barrières parce que on peut quand même être positif quand on est vacciné. Simplement, la vaccination, je le rappelle, elle n'empêche pas d'être positif au Covid, elle empêche d'avoir des formes graves. C'est ça qui est important. Et donc, ce qu'on veut éviter, si c'est juste une grippe, comme c'est le cas pour un certain nombre de gens quand on est vacciné, c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est que les gens non vaccinés, eux, ils font des formes très très graves et quelque chose que les gens savent pas. Les gens, ils se disent, peut-être, tant pis, je serai malade et puis j'irai peut-être en réa et puis je m'en sortirai peut-être. Non, c'est pas ça. Là, aujourd'hui, 100% des gens qui sont passés en réanimation auront des séquelles pulmonaires. Ils n'auront plus jamais le même souffle que celui qu'ils ont eu jusqu'à présent. Parce que ça attaque les poumons de manière extrêmement agressive. Donc tout ça, il faut le dire, et tout ça, ça va coûter extrêmement cher accessoirement à la Calédonie, parce que ce sont des gens qui vont avoir de longs moments de rééducation, qui vont pas pouvoir reprendre le travail, etc. Et puis en termes humains, au niveau de ce que les gens vont vivre, c'est des mois et des mois de difficultés, tout simplement pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils ont entendu quelqu'un qui a dit qu'il fallait pas se faire vacciner. Mais au secours, quoi. Au secours, laissons. Enfin, à un moment donné, quand on a 96% des médecins qui sont d'accord sur quelque chose, je suis désolée, on n'est pas dans du 50-50 où les gens se demandent c'est pour, c'est contre. Non, non, les médecins, ils disent allez vous faire vacciner. La réalité, c'est en réaï, tous les gens sont non vaccinés. C'est comme ça. On ne peut pas contester ça.
Alors, parmi les autres mesures, il y a un confinement strict, on y est toujours. Un couvre-feu a même été décrété. Qu'est-ce que vous pensez de cette gestion de la crise sanitaire ? Les bonnes décisions ont été prises au bon moment ? La barre a été mise assez haut ou est-ce qu'il aurait fallu être peut-être plus contraignant? On voit beaucoup de gens encore se promener dans les rues de Nouméa.
Écoutez, le confinement tel qu'il a été fait, je pense qu'on aurait sans doute dû le faire de manière un peu plus dure. Moi, j'avais demandé à ce qu'il soit un peu plus dur dès le départ, quitte à ouvrir au fur et à mesure. C'est ce que j'ai demandé en termes d'ouverture avec la pêche, avec les marchés, parce que les gens ont besoin de manger quand même, et que c'est un confinement qui dure 4 semaines. C'est long pour un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens de vivre au quotidien. Mais on aurait dû tout de suite casser la chaîne de contamination de manière plus forte. Et on le voit dans les courbes qui nous sont présentées par les experts. Plus on est dur au départ dans le fait de casser la chaîne de contamination, et moins on a d'impact. Donc oui, on aurait peut-être dû être un peu plus dur dès le départ. En tout cas, je pense que la gestion, on l'a fait tous de manière la manière la plus solidaire possible. On essaye tous de faire le maximum pour que bah, l'impact soit le moins lourd possible, même s'il va être de toute façon assez lourd.
Sur la pêche, sur la chasse, sur les marchés également, vous avez déjà eu des réponses ou c'est en cours de préparation, la réglementation
Oui, alors la direction des opérations, donc la direction des opérations, c'est le président du gouvernement, les trois présidents de province, le président du Congrès et le président du Sénat coutumier ont validé le fait d'ouvrir la pêche vivrière et d'ouvrir les marchés. Je ne sais pas si ça s'est traduit dans un arrêté. Des fois, c'est un peu long en termes de traduction, mais en tout cas, ça a été validé. Donc, je pense que c'est important pour une partie de la population de pouvoir aller chercher de quoi se nourrir, tout simplement, au quotidien.
Un autre enseignement de cette crise sanitaire, c'est la solidarité nationale. On peut dire là que l'aide de l'État est au rendez-vous, et j'imagine que c'est quelque chose qui, à la fois, que vous attendiez et qui vous fait plaisir.
Oui, alors là, on n'est plus dans une question de faire plaisir ou pas faire plaisir. L'arrivée de la réserve sanitaire, en fait, elle était tout simplement vitale. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de lits qui étaient occupés à l'hôpital, hein, en réanimation, dépassait notre capacité humaine à les accueillir. Ça veut dire que quand on n'est pas en capacité d'accueillir les gens, ben, on leur dit de repartir chez eux et ça veut dire qu'ils vont mourir chez eux. C'est ça la réalité. Donc quand on n'a pas les moyens humains que la France nous a apporté, bah c'est ça la réalité. Donc il y a 70 personnes qui ont commencé hier au Médipôle et qui permettent tout simplement d'être aujourd'hui en capacité de mettre dans des lits d'hôpital des gens qui doivent être en lit d'hôpital, qui doivent avoir de l'oxygène, etc. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas l'aide de la France, c'est pas y a pas là aussi, on n'est pas en train de débattre de savoir si on est pour le oui ou pour le non à l'indépendance le 12 décembre. Sans la France, il y avait X personnes de plus qui mouraient parce qu'on n'était pas en capacité de les accueillir à l'hôpital. C'est ça la réalité.
Alors là, il y a également, même si c'est peut-être plus difficile d'en parler, il y a aussi des conséquences économiques et elles touchent tout le monde et elles vont toucher tous les milieux avec des risques de défaillance d'entreprise et donc de suppression d'emplois. L'économie calédonienne était déjà extrêmement affaiblie. Est-ce qu'elle va pouvoir survivre à ce troisième confinement dont on ne sait pas quand il va se terminer, à cette nouvelle crise sanitaire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sauver la situation?
La situation économique, elle est surtout très affaiblie par les successions de référendums et l'incertitude politique. La réalité, c'est que ça fait des mois et des mois que les entreprises souffrent. Le BTP n'a plus de projet, n'a plus de carnet de commandes. C'est la catastrophe économique, elle n'est pas liée à la crise Covid à la base, elle est liée à l'incertitude politique. C'est pour ça.
Mais la crise sanitaire en rajoute, quoi.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on a demandé à ce que le référendum ait lieu le plus tôt possible, parce que je crois qu'aujourd'hui, tous les Calédoniens veulent en sortir. Et quand on parle, juste avant de parler de l'impact de la crise sur cette situation économique, quand on parle de la crise économique, de la situation économique, on ne parle pas des chefs d'entreprise, on parle des salariés, on parle des pertes d'emplois. C'est en 2020, c'est 1000 personnes qui travaillent, donc c'est 1000 personnes de plus qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas à la fin du mois de quoi nourrir leurs enfants. C'est ça la réalité. Et ça, c'est pas la crise sanitaire, c'est l'incertitude politique. Donc évidemment, la crise sanitaire par-dessus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'on a plein d'entreprises, et en particulier les plus petites, les patentés, ceux qui sont tout seuls dans leur entreprise, qui ont un impact direct. Quand on est patenté et qu'on ne peut pas bosser pendant un mois, un coiffeur, par exemple, qui ne va pas bosser pendant un mois, il n'a rien qui rentre, tout simplement. Donc, à la fin, il n'a pas de quoi bouffer. Donc, c'est ça la réalité de la crise. Et c'est pour ça que les aides de la province, elles arrivent le plus tôt possible. Les formulaires ont été ouverts il y a une semaine. J'ai signé les 100 premières aides hier. On essaye de faire le plus vite possible. Mais ce n'est pas suffisant. Là aussi, l'aide de la province, elle vient en plus de l'aide de l'État. Si l'aide de l'État n'était pas là, là, c'est pareil, on perdrait énormément d'entreprises. Et quand on dit que des entreprises coulent, ce n'est pas une entreprise au sens d'un numéro de ridette. C'est une personne en moins qui travaille, donc c'est une personne en plus qui n'a pas de salaire, qui se retrouve à devoir demander des bourses, de l'aide médicale et différentes aides parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls.
Alors la province sud a donc reconduit son plan d'urgence, donc vous dites que vous avez déjà signé. Ça va suffire, non? Que vous disent les chefs d'entreprise aujourd'hui? Ils vous demandent de compléter ce plan, d'apporter d'autres aides. Il y a aussi les aides qui sont fournies par l'État, vous le disiez, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tout ça, ça va permettre de passer ce cap sans trop de casse?
C'est très mitigé. Pour l'instant, les chefs d'entreprise nous disent qu'ils sont contents d'avoir ces aides. Ça leur fait une petite bouffée d'air. Évidemment, s'il y avait plus, ils prendraient plus. Mais pour l'instant, entre l'aide de l'État, l'aide de la province, et puis sur les entreprises un peu plus importantes, le chômage partiel qui est donné par la Nouvelle-Calédonie, je le rappelle, compensé aussi par la France, hein, faut quand même aussi le dire, ça permet de maintenir un certain nombre d'entreprises à flot. Mais je le répète, qu'est-ce que les gens me disent ? Ils me disent, il faut qu'on en sorte de l'incertitude politique. Cette crise, le Covid, c'est fini, on vivra avec. On vivra avec, on sera plus Covid-free, on va vivre avec. Donc là, on a une vague gigantesque qui nous tombe dessus. Mais petit à petit, le nombre de cas va se limiter avec la vaccination, évidemment. Quand on aura atteint un taux de vaccination suffisant, eh bien, on vivra comme les autres pays, on réouvrira petit à petit, on enlèvera petit à petit les interdictions qui ont été mises, et puis on continuera à vivre. Mais par contre, sur le plan économique, qu'est-ce que les gens attendent ? Qu'on sorte de l'incertitude et qu'on leur donne des perspectives. Et c'est ça notre objectif. Je rappelle que une fois le référendum passé, on doit trouver une solution institutionnelle. Et les gens, ils en ont. Cette crise, elle aura touché beaucoup de familles, et ils veulent plus qu'on se retrouve encore et encore à s'opposer sur le oui, sur le non, la vaccination, pas la vaccination. Ils ont envie qu'on réapprenne à vivre ensemble, à se retrouver et à arrêter de se prendre la tête entre les uns et les autres.
On va revenir sur le référendum, mais je voudrais quand même en terminer avec cet aspect économique, parce que tout ce qui a été mis en place, ça a un coût énorme. On sait encore une fois que les finances de la Calédonie sont dans un état épouvantable. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Parce que pour l'instant, il y a plusieurs pistes, mais il n'y a aucune décision qui semble avoir été prise, à moins que vous ayez des informations dont nous ne disposions pas. On avait parlé d'un emprunt auprès de l'État, mais il n'est pas décidé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va pouvoir passer les mois qui nous séparent, les semaines qui nous séparent du référendum, ou les mois qui nous séparent de la fin de l'année ? Où est-ce qu'on va trouver l'argent ?
Alors, vous savez, sur cette crise, on a fait tous le choix d'être extrêmement solidaires et donc de prendre les décisions et de les assumer ensemble. Il y a une chose qui ne concerne pas la crise sanitaire, qui concerne la situation de la Nouvelle-Calédonie, c'est la situation du RUA, mais c'est la dette finalement de la Nouvelle-Calédonie. Louis Mapou, avant même, le jour même, je crois, qu'il a été élu, il a dit « Moi, je ne demanderai pas l'argent de la France ». Excusez-moi, mais quel manque d'humilité ! Avant de faire ça, on regarde la situation, on regarde comment on va s'en sortir, et puis on essaye de prendre les bonnes décisions. Bon, entre-temps, il a regardé les comptes, il a vu la situation, et tout ça, on aimerait bien avoir une solution magique, hein, et dire, bah voilà, on va pouvoir récupérer 30 milliards, ils sont cachés sous le matelas, on va les sortir. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc à un moment donné, bah, comment on fait ? Bah, comment on fait ? Bah, on va demander à cette France qui nous protège, qui nous a toujours protégés, qui nous protège pendant cette crise, qui nous protège de nous-mêmes. Parce que si aujourd'hui on a 30 milliards de dettes, c'est parce qu'on n'a pas été en capacité. On veut tous être autonomes, on veut des compétences, etc. Et puis c'est pas loyaliste ou indépendantiste. Hein. Les indépendantistes, ils ont tout voté, ils ont été de toutes les majorités depuis 15 ans. Hein. Donc c'est pas indépendantiste ou loyaliste. Hein. C'est à un moment donné, on a généré ces 30 milliards de dettes. Il faut qu'on ait un coup de main, et il faut qu'on ait un coup de main de la France. Et la France, elle sera là si on va lui demander. Pour l'instant, le gouvernement ne demande pas, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Alors il a fait des patchs avec un bout de l'OPT, un bout au port autonome, etc., pour s'en sortir pendant les 3 mois qui viennent et pour pas que les soignants soient en risque de ne pas être payés à la fin du mois. Mais ça ne suffira pas, ça ne suffira pas. Il faut qu'on aille demander l'aide de la France.
Et vous pensez que vous allez participer, c'est de convaincre les indépendantistes de faire ce pas, ou est-ce que au sein du gouvernement collégial, encore une fois, la discussion est ouverte sur cette question?
Je trouve le président du gouvernement très pragmatique sur le sujet. Il a remercié la solidarité nationale sur la crise. Il a été demandé. On a des endroits dans certaines tribus qui sont très reculées où on a du mal à les faire vacciner. C'est l'armée qui va vacciner. Il a été demandé cette aide à la France. Je crois qu'il y a quand même un réalisme de la part du président du gouvernement. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les membres, mais en tout cas, il y a cette forme de réalité qui s'impose, hein, à lui. Et je crois dans l'intelligence collective qui va faire qu'on ne va pas laisser couler la Calédonie par ego ou par volonté de ne pas demander à la France. On est Français. Il faut qu'on sache, qu'on fasse ce qui est nécessaire de faire.
Alors dans ce contexte, est-ce qu'on peut parler du troisième référendum ? C'est la question, vous avez commencé à en parler. Mais votre parti, les Républicains calédoniens, le MPC de Gilles Brial et Génération NC de Nicolas Metzdorf ont publié un communiqué cette semaine et vous dites qu'il est inapproprié d'ouvrir le débat dans ce contexte de crise sanitaire. Mais à 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois de l'échéance, vous êtes bien d'accord, il faut en parler quand même.
Oui, ce que j'ai trouvé décalé, alors il semble qu'ils aient fait marche arrière, mais il y avait eu un communiqué d'un élu pour dire qu'il fallait le décaler. Enfin, je crois que c'était simplement inapproprié. On était au cœur du début de la crise où on n'avait aucune visibilité. On commence à en avoir un peu plus maintenant sur quand sera le pic, sur quand est-ce que ça va descendre, etc. Et il faudra en parler. Le ministre Le Cornu a fait le choix de venir quand même 2 semaines encore en Calédonie à partir de la semaine prochaine. Il vient pour voir comment l'organisation de ce référendum va se faire. On va avoir toutes les occasions, toute latitude pour parler de la manière dont ce référendum va être organisé, sur les conditions de ce référendum. Donc, il n'y avait pas d'urgence. Je sais pas, on avait l'impression qu'il fallait que certains s'expriment vite sur le sujet pour... Non, enfin, je veux dire, on a une date de référendum, c'est le 12 décembre. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui de ne pas faire ce référendum le 12 décembre. Qu'est-ce qu'on va mettre ce sujet politique sur la table,
enfin, voilà, donc, pour vous, il faut maintenir cette date du 12 décembre.
Bien sûr.
Mais globalement, il y a un consensus, même si le débat n'est pas encore complètement ouvert. Il y a un consensus où il y a vraiment une volonté de certains de le reporter, de se dire qu'il faut se donner du temps, la crise sanitaire ne va pas permettre de l'organiser.
J'ai pas entendu de volonté très claire de ne pas le faire. J'ai entendu des gens qui s'interrogent, ce qui est normal et ce qui est quand même... Enfin, on vit cette crise les uns et les autres au quotidien, donc c'est normal de se poser la question. J'ai entendu personne dire de manière explicite qu'il demandait le report. Il y en a qui l'ont évoqué, on a entendu le président du Congrès recouamitant, dire qu'il fallait que le débat ait lieu au sein du FLNKS. On a entendu Thierry Santa parler de l'annuler. On a entendu le Rassemblement National dire qu'il fallait le reporter, puis non. Enfin, en tout cas, on a entendu des voix, mais jamais de voix claire pour dire qu'il fallait le reporter, et je pense que c'est bien.
Vous vous opposeriez à un report où vous pourriez comprendre, dans certaines conditions, qu'il faille le reporter ?
Telle que la situation est aujourd'hui, et telles que les prévisions se font, je ne pourrais pas comprendre qu'on le reporte.
Mais est-ce que vous serez en mesure de mener une campagne référendaire dans une Calédonie qui aura peut-être été un peu traumatisée, bousculée par cette crise sanitaire, avec un certain nombre de morts, on le sait déjà, avec beaucoup de malades, comment va pouvoir se dérouler la campagne ? C'est aussi une question, j'imagine, que vous posez et qu'il faut commencer à se poser.
Bien sûr, encore une fois, chaque chose en son temps, on est au cœur de la crise, on a des familles qui souffrent, on a 300 personnes en hospitalisation, 50 en réa ou 60, on a 62 morts, enfin on est au cœur de la crise. On le sait très bien, cette crise, elle va s'atténuer, les gens vont panser leur plaie, et il va falloir qu'on reprenne la vie petit à petit. Mais on vit une crise sanitaire exceptionnelle, on vit une crise économique exceptionnelle. Reporter le référendum, ce serait rajouter encore une crise politique et une crise économique supplémentaire. Parce que, encore une fois, je crois que les gens ont besoin maintenant d'arrêter de s'opposer, d'arrêter d'être en permanence dans les pour, les contre, dans la souffrance économique. Il faut qu'on en sorte, il faut qu'on passe à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire purger ce référendum, ça veut dire passer à une autre dynamique et à la dynamique de trouver une solution tous ensemble.
D'ailleurs, Sébastien Le Cornu, vous le disiez, a maintenu son déplacement malgré la crise sanitaire. Il nous disait lui aussi ce matin, d'ailleurs dans une interview qu'il nous a accordée, que le référendum serait une manière de... une forme de retour à la normale, justement. Qu'est-ce que vous attendez de sa visite ? Est-ce qu'il était venu à l'origine pour vérifier les conditions d'organisation du référendum, ouvrir le dialogue politique ? C'est ça que vous attendez de lui, cette fois-ci ?
Oui, alors évidemment, la crise sanitaire va s'inviter dans son déplacement. Ce n'était pas prévu au départ. Je pense que l'État a été extrêmement réactif sur cette crise, on l'a dit, sur la réserve sanitaire, sur les vaccins qui nous sont apportés. Là, on va avoir... parce qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin ARN messager. L'État nous envoie un vaccin non ARN messager la semaine prochaine. Enfin bref, l'État est quand même hyper réactif. Donc je pense que Sébastien Le Cornu, en venant voir sur place, verra aussi comment l'aide de la France est utilisée ici, comment ils peuvent continuer à nous accompagner. Donc il y a cette partie-là. Mais il doit y avoir la partie sur... la préparation du dialogue politique qui aura lieu le lendemain sur l'organisation de ce référendum. Je répète encore une fois, ça fait maintenant 5 ans qu'on enchaîne les référendums, il n'y a pas une année où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas une année où on n'est pas en train de se prendre la tête avec son voisin qui dit oui ou qui dit non, qui dit je veux machin ou je veux truc, je veux le vaccin, je veux pas le vaccin. C'est insupportable. On a besoin de redonner à la Calédonie des perspectives positives. On a un pays qui est magnifique, qui est extraordinaire, et les Calédoniens ne peuvent même plus en profiter parce qu'on est tout le temps dans cette oppression de la division, etc. On a besoin d'avoir des perspectives, et ces perspectives, elles passent par le dialogue politique.
Et vous serez en capacité, justement, à l'occasion de cette visite du ministre des Outre-mer, de renouer le dialogue, d'ouvrir déjà ce dialogue pour, on va dire, l'après-référendum, l'après 13 décembre ?
Oui, je crois sincèrement que d'abord à Paris, on a eu des discussions constructives avec les indépendantistes. On a eu des moments privilégiés avec le ministre des Outre-mer, avec le Premier ministre, où on a pu poser un certain nombre de choses avec les indépendantistes déjà en mai dernier. Je crois qu'on peut continuer ce dialogue parce que faut pas se leurrer. Hein, le lendemain, je sais pas quel sera le résultat exact, et si ce sera 55-45, 51-49, 53-47, que sais-je, mais peu importe. On a une Calédonie qui sera divisée en deux sur le résultat, et aucun des deux qui ne pourra faire sans l'autre. Donc ça, je pense qu'il y a eu à Paris, avec le travail qui a été fait sur les conséquences du oui et du non, une prise de conscience de la part de tous, du fait que de toute façon, il faudra qu'on construise une solution tous ensemble.
Et est-ce que vous pensez, question peut-être difficile, parce que presque philosophique, entre guillemets, est-ce que cette crise sanitaire ne va pas d'une certaine manière apaiser les esprits, apaiser les gens, les rapprocher, créer une espèce de solidarité de la population calédonienne, davantage que, effectivement, l'opposition qu'on connaît depuis des décennies maintenant?
Alors, il y a une vraie solidarité et une vraie cohésion entre les différents leaders politiques. On a voté l'obligation vaccinale à l'unanimité, on gère cette crise de manière extrêmement solidaire, on travaille avec le gouvernement, les provinces, le Sénat coutumier, le Congrès, tout le monde travaille ensemble, on a une position très unie sur les solutions à apporter à cette crise, sur la vaccination, sur la manière de traiter la communication, etc. C'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, on est très solidaire. La population ne l'est pas forcément. La population ne l'est pas forcément, donc c'est qu'on n'a pas forcément bien fait. Mais aujourd'hui, la population est encore très divisée parce que, vous savez, c'est très très dur parce qu'il y a des informations nouvelles qui arrivent tous les jours. Je prends par exemple la question des hôpitaux. Vous savez, on a créé cette chose un peu innovante. On a fait des hôpitaux qui sont en fait des hôtels transformés en hôpital. Au départ, on y mettait les gens pas symptomatiques, et puis après les gens symptomatiques. Et puis en fait, aujourd'hui, ils servent ces hôtels à mettre les gens qui sont après l'hospitalisation et qui ont besoin de continuer à être oxygénés. Tout ça, ça change tous les jours. Et les Calédoniens, ils ont besoin de temps pour comprendre. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'il y a une incompréhension, il y a de la division. Et je pense qu'on a besoin de passer le référendum et de se poser, de trouver une solution institutionnelle et puis de se donner une perspective sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans pour qu'enfin on puisse se dire le lendemain je vais me réveiller ou ce que je vais offrir à mes enfants, c'est de savoir ce qu'ils vont pouvoir eux-mêmes offrir à leurs enfants. Et pour l'instant, nos enfants, ils nous disent mais ça va être quoi la Calédonie de demain? Et ils n'en savent rien. Et pour ça, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette situation. Alors cette crise, oui, on est solidaires entre nous, les responsables politiques, et je pense qu'effectivement, forcément, ça crée de la confiance, ça crée du lien. Mais il faudra aussi que les Calédoniens se retrouvent.
Sonia Bakès, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci.